à Toulon ce matin. Le message serait un peu léger mais profond, qui fait suite à ce que nous avons vu la dernière fois. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je voudrais au mieux de vous Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, comment ? Crucifié. Parce que si Jésus n'est pas crucifié, le plan de salut élaboré par Dieu pour faire toute chose nouvelle ne marchera pas. Dans le jardin de Dieu, vous avez deux types d'arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu a mis en garde Adam et Ève, ne pas toucher les fruits. L'arbre de la vie, dans le centre du jardin. Et quand on parle du jardin de Dieu, on a l'impression que c'est un terrain plat, mais c'est sur une montagne. C'est pour ça que Dieu se révèle toujours dans les hauteurs. Mais par la volonté expresse d'Adam et Ève, ils avaient volontairement choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur la suggestion de Satan. Mais qu'est-ce que l'arbre du bien et du mal? Ce n'est rien d'autre que l'incarnation de tout mensonge de contre-vérité. Parce qu'une fois qu'ils ont avalé et qu'ils ont mangé, leur pensée était différente. Et Dieu s'est détaché. Parce que Dieu ne peut pas faire cause commune avec le péché. Par la présence du péché, Dieu peut détruire s'il vient. C'est pour ça qu'avant que Dieu ne vienne, il nous prépare. Prépare notre cœur. Quand Jésus veut arriver, il y avait Jean-Baptiste qui annonçait comme lumière. Attention, il y a un qui vient, préparez votre cœur à le recevoir. Et comme là, nous l'avons vu tout à l'heure, Jésus est venu pour une fois et il viendra encore pour une seconde fois. Et pour cette seconde venue, il est en train de préparer notre cœur. Parce qu'il va arriver lui-même. Et à la croix, Jésus est crucifié. La crucifixion de Christ est imagée symbolique. C'est la restauration de l'arbre de la vie que Jésus a établi. Et donc, en mourant avec Jésus à la croix, nous vivons pleinement les fruits que nous aurait donné l'arbre de vie. Et c'est la vie éternelle. Qui n'est pas simplement la longueur d'une vie, mais la qualité d'une vie. La vie éternelle, c'est la qualité. Une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de lumière que nous avons tous reçu en nous. En acceptant Jésus comme son nom et Seigneur, la lumière de Dieu est en nous. Sauf que cette lumière, il faut qu'elle jaillisse. Voilà pourquoi il est nécessaire parfois de passer par la croix, pour que la lumière de Dieu qui est dans notre cœur rejaillisse dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà, c'était l'essentiel du message de la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons lire une parabole dans l'Ancien Testament. C'est le livre de Jérémie, chapitre 18. Pendant que notre frère l'affiche, je peux le lire pour gagner du temps. C'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Et Jérémie était un prophète qui a évolué entre 6 ou 7 siècles avant Jésus-Christ. C'est un prophète très sensible. On l'appelle le prophète qui pleure. Vous savez, quand on est très sensible, on ressent fortement les choses, bien ou mauvaises. Il y a des gens comme ça, on les appelle des éponges. Ils sont capables d'absorber les bonnes choses, comme ils sont capables d'absorber les mauvaises choses. Il y a des gens très sensibles. Et ceux qui sont très sensibles, ils ont un degré de souffrance plus élevé. Parce qu'ils ressentent les choses que d'autres ne ressentent pas. Et au travers d'eux, il y a la finesse de Dieu qui se manifeste. Les grands musiciens qui nous font des grandes musiques et qui nous poussent à l'émotion, si vous creusez dans leur livre, vous verrez que c'est les gens qui ont beaucoup souffert. Ils ont souffert profondément. Et de cela jaillit quelque chose de bien pour l'humanité. Et ne méprisez pas les souffrances par lesquelles vous passez. Elles sont capitalisantes dans la présence de Dieu. Alors je dis donc, versets 2 à 6. Lève-toi et descends dans la maison de Potier. Le terme est employé descends. Là, parole. Je descendis, ça c'est chez les médicaments, dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en reçoit un autre vase, tel qu'il trouvera beau de le faire. Amen. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors, un peu plus loin, un autre texte qui fait allusion à la lumière, c'est au Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je le lis, parole de Dieu. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous, portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire, il vient non de nous, mais de Dieu. Le Seigneur nous parle par sa parole sainte pour établir des vérités dans notre tête. Et la vérité, vous le savez bien, c'est la vie. L'idolâtrie, c'est la religion des cœurs égarés, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et leur Dieu, c'est l'idolâtrie, qui peut prendre plusieurs formes. Mais vous et moi, nous connaissons un Dieu dont le nom est l'Éternel. C'est lui qui a l'origine de la création de toutes choses. Avant même que vous ne veniez au monde, il connaît votre vie. Tous les détails de votre vie, il le sait. Même les cheveux de votre tête, il les a comptés. Il a dit dans le livre des Ésaïe que je vous ai inscrit dans la paume de ma main ce que dit Dieu. Et si nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur, une écriture est inscrite dans la main droite de Dieu, votre nom. Et ce nom est l'une des bénédictions, des 12 bénédictions que Dieu donnerait à ceux qui seront des vainqueurs et qui persévéreront jusqu'à la fin, dans le livre d'Apocalypse. Et j'ai parcouru le livre d'Apocalypse, voyez-vous, dans le chant que Clémence nous a fait chanter, on n'a pas vu le nom de Jésus, mais il y a que des images. Le nom du véritable, le nom de l'agneau de Dieu, le nom de la parole, le nom de celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Voilà le nom que donne Jésus dans le livre d'Apocalypse. Le nom de Jésus n'est pas prononcé. C'est pour dire que le nom de Jésus n'est que valable sur la terre des hommes. Ce nom n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, on n'a pas besoin d'un sauveur. Dans le ciel, on n'a pas besoin de quelqu'un qui guérit. Dans le ciel, on n'a pas besoin de quelqu'un qui enlève le péché. Parce que le péché aura été enlevé. Le nom de Jésus est valable sur la terre des hommes. Mais nous sommes dans la conscience du ciel lorsque nous chantons. Lorsque nous disons l'agneau de Dieu. Lorsque nous disons l'agneau de la tribu de Juda. Lorsque nous disons toi le fidèle, parole vivante, nous sommes dans la conscience du ciel. Et c'est ainsi qu'on appelle Jésus. J'ai une petite histoire qui va laisser ce que je vais dire et ça m'empêcherait de beaucoup parler. Parce que chez nous, l'enseignement par l'image, on dit beaucoup. Cette scène se passe en Asie. C'est la parabole du pot fêlé. Vous souvenez-vous que nous sommes tous des pots, des vases. Donc voilà un des usages. Il était une fois en Inde, un porteur d'eau qui portait deux pots d'eau. Chacun accroché au bout d'un bâton, posé en balancier sur ses épaules. sont pleines d'eau tout le long du chemin et derrière la rivière. Le pont ferré ne livrait que la moitié de son chargement d'eau. Pendant 2 ans, chaque jour, le pâteau ordonne d'apporter des seaux et demi à la maison du maître. Bien sûr, le pont parfait était fier. Et le pont ferré se courbait de honte en raison de son défaut. Malheureux de ne pouvoir accomplir que la moitié de sa mission. Après 2 ans, de ce qu'il ressentait comme un échec, une honte, il parla un jour au porteur d'eau près de la rivière. Voici ce qu'il dit. Yann, j'ai honte. Je voudrais m'excuser. Pourquoi, lui dit le porteur d'eau, Yann, de quoi as-tu honte? Depuis 2 ans, je n'ai été capable de porter que la moitié de ma charge. La fêlure de ma panse laisse couler l'eau pendant tout le trajet qui sépare la rivière de la maison des maîtres. À cause de mon imperfection, je n'ai pas récompensé de ton travail, dit le pot. Le porteur d'eau fut très étonné d'entendre une telle complainte. Lorsque nous retournerons à la maison du maître, observe bien les belles fleurs le long du chemin. En effet, comme il escaladait la colline, le pont ferré observa le soleil qui dorait les superbes fleurs sauvages le long du sentier. Cela lui réchauffait un peu le cœur, mais à l'arrivée, il se sentait toujours mal, car il avait laissé fuir la moitié de son eau à nouveau. Et à nouveau, le vieux pont s'excusa auprès du porteur d'eau. Celui-ci lui répondit, « As-tu remarqué qu'il y avait des fleurs de ton côté du chemin, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai toujours connu ton défaut et que j'en ai tiré parti. J'ai semé les fleurs de ton côté du sentier. Chaque jour, lorsque je reviens de la rivière, tu les arroses. Et depuis 2 ans, j'ai ainsi des fleurs à couper pour décorer la table des maîtres. Si tu n'étais pas fait perpétuité, c'est-à-dire imparfait, cette maison ne connaîtrait pas tant de grâce et tant de beauté. Vous voyez la moralité? Chacun de nous a ses propres faiblesses. Chacun de nous a ses propres fêlures. Mais chacune de nos fêlures, complétées par chacune de nos capacités, qui font que l'œuvre de Dieu avance. Les fêlures, c'est une matière première entre les mains du Seigneur. Dieu ne paraît jamais. Même si dans ta tête le diable est assaillé en te disant que tu n'es pas un bon chrétien, tu es un mauvais chrétien, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Tu es ce que Dieu dit que tu es, mais pas ce que le monde dit, ni ce que le diable te dit. Parce que le diable ne viendra jamais pour t'encenser, fils de Dieu, fille de Dieu, tu es superbe, tu as toutes les qualités du monde. Même si tu les avais, il ne vous le dira jamais. Pourquoi? Parce que de sa bouche ne sortira jamais des paroles élogieuses. Nous devons remercier Dieu même pour les situations difficiles, qui nous font parfois pleurer. C'est Dieu qui a créé les émotions. Mais dans cette pleure, nous pouvons faire pousser les cris de joie à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. S'il est question de louer Dieu que tout va bien, c'est pas un sacrifice. Vous comprenez? Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Et lorsque dans des situations, nous avons envie de ne pas louer Dieu et que nous disons Père, que ton nom soit sanctifié, ça, c'est un sacrifice de louange. Et dans des situations de ce genre, les sacrifices de louange sont bénis. Et comme nous l'avons entendu une fois dans une prédication, c'est un acte de résistance. C'est un antidote à l'esprit de déprime.
Fichons-nous un langage nouveau. Parlons le langage de la foi, le langage de reconnaissance. Parce qu'au travers de nos frères et de nos sœurs, nous voyons l'image de Dieu. Que nos fêlures ne soient pas des occasions de nous mépriser nos propres yeux. Mais de nos fêlures, Dieu dit toujours l'avantage. Cependant, il faudrait que nous soyons de bol, des vases d'honneur entre les mains de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes des bols, nous sommes des vases. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 15 et 16, nous allons voir que tous les chrétiens du monde, ceux qui ont été sauvés, les premiers de la résurrection, les premiers nés que Jésus est venu enlever, qui sont les fruits mûrs de la semence qu'il a semée, eux, ils vont devenir entraînés de Dieu la coupe de jugement. Dieu va se servir de nous pour juger le monde. Et pour cela, il faudra que la coupe ne fuit pas à partir de ce moment-là. Voilà pourquoi Dieu s'emploie à repartir au laboratoire. Lorsque, après avoir construit, il s'aperçoit qu'il y a quelques fêlures. Dieu tire l'avantage des fêlures, mais il te malaxe à nouveau et il te fait repartir dans le fou pour que tu sois consolidé. Où est-ce que je vais en arriver? Je vais en arriver au fait que l'une des phrases ou des mots que nous utilisons beaucoup dans le milieu chrétien, c'est bénir. Ah, c'est un bon mot. Je préfère celui-là que le mot maudire. Mais cependant, dans le mot bénir, il y a un mot qui est un sens très dangereux. Il y a deux sens. À quelle occasion ce mot a été employé par Jacob? C'était au moment où Jacob était rentré en conflit avec l'ange de l'Éternel sur le mont Péniel. Une belle bagarre a eu lieu. Le coriace de Jacob s'est battu vigoureusement contre l'armée de l'Éternel, pour l'ange de l'Éternel. Et le matin venant, l'ange voulait s'en aller, il a attrapé par le pied, il dit tu ne partiras pas sans que tu le mets béni. Oh, il ne fallait pas prononcer ce mot-là devant Dieu. Quand tu es quelqu'un comme Jacob, nous l'avons été tous de Jacob. Des gens coriaces qui ne veulent pas soumettre notre vie à la direction du Saint-Esprit. C'est vrai, moi aussi. Mais c'est vrai que la croix qui peut passer par là pour nous remettre en place. Quel que soit le degré de notre résistance, il y a un remède entre les mains du Seigneur. Ça, ne vous inquiétez pas. L'ange lui a dit, ah bon, c'est de ça dont tu as besoin. Je ne sais pas si l'ange a appris le karaté, mais en tout cas, la bataille était très rude. D'après les règles de la bagarre, normalement, c'est celui qui met l'autre à terre qui est vainqueur. L'ange lui a donné un coup dans les fêlures, il est tombé, il s'est relevé, et depuis lors, il se met à boiter. Depuis lors, il s'est mis à boiter. Il ne peut plus s'appuyer sur sa hanche, il est obligé de s'appuyer sur les pieds de l'ange. C'est pour dire que vous allez prendre maintenant appui sur Dieu, pas sur vos ressources. Et de là, il dit que Jacob est vainqueur des hommes, et il est vainqueur de Dieu. On ne peut jamais être vainqueur de Dieu. Mais dans cette expression, il dit que Jacob est vainqueur de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si Dieu arrive à nous briser, si Dieu arrive à nous dépouiller de nous-mêmes, si Dieu arrive à nous enlever tous les appuis humains sur lesquels nous appuyons, nous ne nous appuyons plus sur nous-mêmes, mais nous nous appuyons désormais sur qui? Sur Dieu. Alors, quand on utilise les ressources que Dieu nous donne, on est victorieux de tout. On est victorieux de nous-mêmes, on est victorieux de Dieu. Voilà l'expression. Alors, Dieu a dit en esprit à notre ami Jérémie de descendre dans l'atelier du potier. Que vois-tu? Il dit que je vois les vases. Mais quel est l'état de ces vases? Il est fini. Que fait Dieu? Dieu le ramasse. Il casse tout. Il recommence. Et c'est ce que Dieu entend faire avec certains d'entre nous. Il va faire toutes choses nouvelles. S'il s'aperçoit que ce qu'il a fait dans un premier temps n'a pas marché, c'est lui qui est le roi. Il a la capacité de reprendre les choses là où il les a laissées. Et à sa manière. C'est pour ça que la Bible dit que l'argile qui est tue,
tournerai jamais entre celui qui t'a créé. Dieu le fait. Pas pour détruire, mais pour construire. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Mais ce n'est que la chair qui ressent le mal, pas l'esprit. Ce que la chair ressent comme mal, ressent comme mal, l'esprit le ressent comme une bénédiction. Et acceptons parfois les moments difficiles par lesquels le Seigneur nous permet de traverser. Ça nous fait gagner des talons sur le plan spirituel. Ça nous rend sensibles aux choses de Dieu. Et ça fait de nous des spectacles de la grâce du Seigneur que nous pouvons dispenser autour de nous. Voilà le message du Seigneur. La ville, c'est nous. Le potier, c'est Dieu. Il est l'architecte. Et nous construit à sa manière. Petit, grand, moyen, d'usage vil ou d'usage d'honneur. Mais ce que Dieu veut, il veut faire de nous des vases d'honneur. Et les vases d'honneur, ce sont ceux qui participeront au règne de Christ. Car Jésus n'est pas venu simplement pour nous sauver, pour qu'un jour ou l'autre nous chantons la gloire du Seigneur simplement, mais pour participer au règne de Dieu lors du second venu du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la perspective de notre marche chrétienne. Notre regard ne doit jamais aller à droite ni à gauche en pleurant. Mais nous devons fixer le cap sur l'objectif, celui de la venue de notre Seigneur, dont nous voyons la venue peindre à l'horizon. C'est là où nous y allons bien. Nous avons besoin de toute la concentration possible. Le diable à l'heure actuelle crée des distractions, des occupations de toutes sortes, pour que nous ne puissions pas nous appliquer à vivre notre foi. La Bible ne nous a pas demandé de travailler pour le salut, non. Il nous a demandé de travailler à notre salut. Et cela, c'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à avancer ensemble. Arrêtons de les gêner en faveur du Seigneur. Parce que c'est lui qui sortira que vous viendrez. Mais vous, si vous les gênez, vous ne repoussez que l'échéance de la bénédiction. Allez plus tôt dans le feu, et vous sortirez déjà comme une voiture accomplie, et vous verrez bien ce que Dieu fera de vous. Voilà la petite pensée sur laquelle je voulais centrer mon intervention, tout en me rattachant à ce que nous avons entendu la semaine dernière. Et le deuxième avance, il paraît que c'est la bougie des patriarches. Hein? Et les patriarches, c'est Abraham. Jacob, il dit que nous avons parlé un peu de Jacob. On devait parler d'Abraham. Et c'est à partir de ce moment-là que Jacob commence à prier. Du coup, il a fait la paix avec Dieu, tout autour de lui s'est calmé. Son frère qui était arrangé pour venir le raccourcir s'est calmé. Et vous voyez là que lorsque vous êtes avec le Seigneur, il est là, la situation autour de vous, Dieu le maîtrise. Et même si ça se résume contre vous, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Ne désespérez pas. Notre Dieu, il est fort, il est grand. Ayons une image juste de Dieu. Si vous n'avez pas une image juste de Dieu, ce Dieu-là, c'est une idole. Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu d'amour. Son amour n'exclut pas sa justice. Il n'aime pas le péché. Mais ce n'est pas parce qu'il a péché que la grâce de Dieu ne se manifeste pas. Sa grâce se manifeste. Les deux. C'est de cette manière que nous devons voir l'Éternel, notre Père. Celui dont Jésus nous a fait fils et par qui nous pouvons vivre une vie de victoire, une vie épanouie. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous n'avons pas un endroit pour que notre regard puisse sur la croix de Jésus-Christ. Mais Jésus mourant sur la croix n'est pas resté dans les séjours des morts. Jésus est ressuscité. Nous devons bien pleurer que c'est l'amour qui a englouti la vie. Cela nous fait à la fois pleurer, nous fait peur, humainement parlant. Mais le jour viendra où ce sera la vie qui va avaler la mort. Et on n'entendra plus parler de lui. Sa place sera disparue de la terre. Et nous vivrons cette vie de félicité avec toi. Donnez déjà cette vie éternelle manifeste ses prémices aujourd'hui. Et nous devons nous y attacher. Même ayant les pieds sur terre, étant dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le système par lequel nous sommes alimentés vient d'en haut. C'est la ressource de Dieu. Apprenons à penser Dieu et non nous-mêmes. Lorsque nous pensons à nos ressources, elles sont infimes, elles sont limitées, elles
nous sommes faibles. Mais lorsque nous pensons à toi, Dieu, associé à notre faiblesse devient une force. Et ce soir, quoi, tu nous appelles ce matin. Bénis chacun de mes frères et de mes soeurs bien-aimés. S'il y a quelqu'un qui a un cœur agité, accorde-lui la paix, une certitude de ce que Christ a accompli à la croix. À la croix, Christ a tout accompli. Mais l'accomplissement matériel est réel, la réalisation, elle s'accomplira à la fin de l'Apocalypse. Et tu nous prépares à cet événement. Nous te bénissons, cher Seigneur. Guéris nos cœurs, guéris nos pensées, guéris-nous de toute maladie, de toutes choses que nous ignorions. Que soient rompus tous les liens invisibles qui nous empêchent de nous élargir dans ta présence, de nous construire une tente nouvelle, d'élargir nos cordages. De fixer au plus large nos pieds, que notre espace de vie spirituelle soit élargi sous ta présence. Nous te rendons grâce, cher Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.